Salut, c'est la Poulie.
Bonjour.
Revue de presse hebdomadaire sur Radio Primitive.
Et on va vous parler de quoi aujourd'hui ? On va vous parler. Moi, je vais vous parler d'un nouveau meurtre policier.
Ok. Et moi, je vais vous parler d'une affaire de cordistes qui s'est passée dans la région. Voilà, d'un procès qui a eu lieu. Et puis voilà, des Jeux Olympiques, et puis de la ministre de la Santé aussi.
Et moi, si j'ai le temps, je vous parlerai d'un article à propos de subventions à des médias qui étaient trop à gauche et qui ont été enlevés dans le centre D'accord. de la France. Voilà.
Okay.
On commence par un petit agenda ?
Eh ben oui. Moi j'ai une. Ah.
Qu'est-ce cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Alors du coup, moi j'ai une petite date chez Josette, le 3 février. C'est une présentation de livre sur la contrainte et la contention en psychiatrie. Et voilà, ce sera Mathieu Bellassène chez Josette.
Rue de l'Arquebuse.
Rue de l'Arquebuse à Charleville-Mézières, le 3 février à 18h.
Et moi, c'est pas tout de suite, mais du 17 au 23 avril à Bure, il y a des rencontres anti-nucléaires, anti-autoritaires, notamment contre le projet de poubelle nucléaire CIGEO à Bure. Voilà. On vous en reparlera plus en détail dans les prochaines semaines. Et ben, on va commencer avec un peu de musique, peut-être. C'est parti.
Voilà, de retour dans la Poulie. Alors, et qu'est-ce qu'on s'écoutait ?
Alors, on écoutait la chanson
Pod. Ok. Alors, moi, je vais vous lire presque l'intégralité d'un article de La Brique, mensuel, je pense, du nord de la France, indépendant, mensuel papier, etc. Mais vous pouvez le trouver sur Internet. Il est disponible chez infolibertaire.net. Alors, en 2012, deux cordistes, Vincent Dequin et Arthur Bertelli, sont morts dans un silo de l'usine Cristanol à Bazancourt. Pour ce double accident du travail mortel, Cristal Union fut condamné début 2019 pour homicide involontaire et manquement aux obligations de sécurité. La douleur de la famille et le traumatisme des collègues avaient alors trouvé un semblant d'apaisement, même si les peines prononcées étaient ridicules. Le 21 juin 2017, c'est la mort qui frappe Le travail qui tue, Quentin Zaraoui Brua, 21 ans, sur le même site, envoyé dans un silo de drèche granulé d'alimentation pour le bétail fait de résidus de betteraves et de blé, la matière sous ses pieds se dérobe soudainement. Quentin est aspiré sous les yeux de son collègue, Anthony, qui n'aura la vie sauve que grâce à deux autres cordistes descendus en catastrophe. Le rapport de l'inspection du travail met en évidence que les trappes d'écoulement ont été ouvertes durant l'intervention des cordistes, vidangeant ainsi le silo par sa base. Une justice aveugle aux faits. Lors du procès pour la mort de Quentin, qui s'est tenu fin 2019, c'est l'incompréhension la plus totale quand l'entourage comprend que le géant du sucre n'est même pas sur le banc des prévenus. Cristal Union est simplement cité à comparaître, au civil, par l'avocat de la mère de Quentin, pour des dommages et intérêts, mais ne risque rien d'un point de vue pénal. Son représentant, présent le jour du procès, ne prête donc pas serment, il vient juste donner sa version des faits. Son intervention n'aura que le mérite de mettre en lumière l'attitude changeante du juge, passant du dédain réservé aux prolétaires au respect dû aux gens importants. Malgré un rapport de l'inspection du travail qui établit que les trappes ont été ouvertes au mauvais moment, l'entreprise n'est pas mise en cause par la justice. Les manquements qui ont conduit au drame sont pourtant clairement établis. 5 infractions sur les 9 constatées sont imputables à Cristanol. L'inspectrice en charge de l'enquête, sachant que Cristanol ne serait pas cité, avait officiellement sollicité le procureur de Reims par le biais de sa hiérarchie pour lui demander expressément de remédier à cette situation inique, au vu des infractions constatées. Comment justifier un tel oubli de la part de la justice ? Cristal Union est le plus gros employeur de la région et pèse 2,5 milliards d'euros. Le poids économique suffirait donc à se défausser de ses responsabilités et à conchier la mémoire des jeunes ouvriers. Preuve du cynisme du groupe, au lendemain de la mort de Quentin, Cristal Union publie un communiqué de presse pour vanter sa forte rentabilité et son excellente situation financière. Lors de l'AG annuel du groupe en 2018, la direction vante la production et les cadences records, notamment sur le site de Bazancourt où sont morts 3 cordistes en 5 ans. Si on ajoute les salariés morts au travail sur les autres sites du groupe, on atteint 6 morts depuis 2012, le dernier datant du 25 décembre 2019. Cristal Union vous souhaite un joyeux Noël. Difficile de ne pas mettre en parallèle les cadences records avec les accidents mortels records. Le procès pour le drame de 2012 a mis 7 ans avant de se tenir pour finalement aboutir à une condamnation. Pour Quentin, 2 ans d'instruction ont suffi, mais avec une certitude d'innocence à la clé pour Cristal Union. Le seul sous-traitant, ETH, qui embauchait Quentin, écope d'une condamnation à 10 000 euros d'amende en sursis. Cristal Union, qui n'est donc pas jugé au pénal, se retrouve également exempté de toute condamnation au civil et ne déboursera aucun dommage et intérêt pour la famille. La justice de classe apprend de ses erreurs. Voilà, et ben, on peut s'écouter un petit peu de musique.
Voilà, on écoutait VS Self avec le titre Worthless. Et maintenant, je vais vous lire un article de Contre-Attaque, contreattaque.net, à propos d'un nouveau meurtre policier qui a eu lieu le 3 janvier, et voilà. Ça s'appelle « Tué à coups de taser, la version policière et mensongère ». Le drame survenu dans la nuit de mercredi à jeudi, en Seine-Saint-Denis, est accablant sur tous les plans. Un homme de 30 ans, père de famille, avait été tué par une rafale de tirs de taser. Pas moins de 18 agents ont été envoyés pour un homme. 6 policiers ont fait usage de leur taser pour 10 tirs. Une série d'impulsions électriques de 50 000 volts ont frappé bien plus ce qu'un corps humain peut supporter. Après 2 arrêts cardiaques, la victime était déclarée morte. Le jour même, les autorités expliquaient dans les médias que la police était intervenue à la demande d'un épicier qui aurait composé le 17 pour un homme ivre et agressif qui aurait créé du désordre. Il aurait, selon cette version, mordu un policier. Ce samedi, tout semble avoir été inventé pour salir la victime, encore une fois. Les amis et collègues du défunt ont répondu aux médias pour faire part de leur incompréhension. L'homme, né en Martinique, marié et père de 2 enfants, traversait effectivement une période difficile, mais cela n'a rien à voir avec l'intervention policière. Pour preuve, il était justement employé dans la supérette et en aucun cas un client violent. Son patron a assuré à BFM qu'il n'a pas appelé les forces de l'ordre et qu'aucune agression envers un employé ou dégradation de son magasin, d'ailleurs fermé au moment des faits, n'a eu lieu. D'après des témoins, une patrouille de police est arrivée sans être appelée et voulait procéder à un contrôle, que le trentenaire aurait refusé, déclenchant l'arrivée de très nombreux renforts ainsi que les tirs mortels. Ils ajoutent que la mère du défunt, habitante de la Creuse, était également sur place. Les policiers ont eux-mêmes reconnu qu'ils connaissaient la victime et que cet homme n'avait jamais été insultant ou agressif envers eux auparavant. Il est déjà inexcusable de tuer un homme de 10 tirs à impulsion électrique, simplement parce qu'il était agité ou ivre, mais en plus la version officielle est intégralement fausse. Cet homme, travaillant dans son épicerie, a été électrocuté sur son lieu de travail parce qu'il avait peur d'un contrôle de police injustifié. Voilà. Article de contre-attaque. Et on va se mettre un petit peu de musique. Voilà, on écoutait Stop Today par le groupe The Pist. Et maintenant, je te laisse reprendre peut-être pour la suite.
Voilà, donc on va parler un peu des Jeux Olympiques. Le gouvernement macroniste est un champion dans l'art d'inverser le réel, de détruire le sens des mots. Un exemple, ce dimanche 7 janvier 2024. À 200 jours du lancement des Jeux Olympiques de Paris, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra intervenait à la radio. Très satisfaite d'elle-même, elle a estimé que ce seront des Jeux iconiques, mais surtout que ces Jeux seront les plus sociaux de l'histoire. Une piscine à Saint-Denis, prévue pour les JO, sera inutilisable. Estimée à l'origine à 68 millions d'euros, cette piscine construite par la multinationale Bouygues pour 174 millions, 300%. Les épreuves de natation en ligne auront lieu dans un stade de rugby réaménagé en piscine à la Défense. Donc voilà, une piscine qui coûte 3 fois son prix, mais qui finalement fait pas la bonne taille. Ça nous rappelle des trucs ici à Reims. En septembre, la ministre des Sports posait en photo avec le vice-président de Coca-Cola France et publiait sur les réseaux sociaux un long message élogieux à l'égard de Coca-Cola, l'un des sponsors majeurs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle était alors accusée de publicité dissimulée pour la multinationale, mais dans la République des lobbies, cela n'a pas semblé poser problème. En revanche, l'entreprise Coca-Cola est considérée comme le pire pollueur plastique au monde. C'est aussi un gros fraudeur fiscal puisque le ministère de l'Économie réclame 720 millions d'euros à Coca-Cola pour les JO écologiques et sociaux. On repassera. Voilà, donc ça c'est un article de contre-attaque sur les Jeux Olympiques. Il y a tout un listing de travaux qui ont dégradé. Enfin bref, vous pouvez aller voir sur contre-attaque.net, Jeux Olympiques, du foutage de gueule. Et puis on peut se mettre un peu de musique peut-être.
Voilà, on s'écoutait Two-Faced Planet de Bib, B-I-B. Et maintenant, je vais vous lire un article du site Street Press à propos de subventions à l'audiovisuel. Cette année, Télé 1000 Vaches, IPNS et La Trousse Corrézienne n'auront pas d'argent du fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité. Les journalistes dénoncent une décision politique venue du ministère de l'Intérieur. Le couperet est tombé le 27 novembre 2023. Télé 1000 Vaches, IPNS et La Trousse Corrézienne ne bénéficieront pas du fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité, le FSMISP, comme les années précédentes. Les trois médias, implantés sur le plateau des 1000 Vaches et alentour, un territoire hyper rural réparti sur plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas dans la liste des titres soutenus que Street Press a pu consulter. Les responsables des médias lancent l'alerte. Pour eux, le ministère de l'Intérieur est dans le coup. Nos dossiers de demande de financement ont fait l'objet d'une instruction différenciée. Le jour de la commission, ils n'ont pas été présentés, s'alarme Franck Dessomme, administrateur de Télé 1000 Vaches, qui s'est exprimé sur France 3 Limousin le 7 décembre 2023. Thierry Letellier, maire de Villedieu, commune de 50 habitants du plateau de 1000 Vaches dans la Creuse, estime « C'est une forme de censure parce que ces médias vont gratter là où ça fait mal ». L'édile, qui connaît bien le travail des trois médias, trouve cette décision scandaleuse. En chiffres, c'est près de 20 000 euros en moins pour Télé 1000 Vaches, qui emploie 5 personnes, 3 500 en moins pour IPNS, qui fonctionne avec des bénévoles, et 9 000 euros en moins pour La Trousse Corrézienne. Le Monde révélait en août dernier que des associations du plateau de 1000 Vaches, dont les trois médias, auraient été placées sur une liste rouge par les préfets, qui dépendent de l'Intérieur, et n'auraient, par conséquent, pas reçu certaines subventions. Le manque à gagner pour les assos atteignait alors 200 000 euros, selon une fonctionnaire citée. Dossier mystérieusement bloqué avant le passage en commission. Le FSMISP a été mis en place en 2015 au sein du ministère de la Culture au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, pour soutenir la liberté d'expression et de la presse. Les critères pour l'obtenir: apporter une information de proximité et favoriser la continuité du lien entre les habitants d'une région. Les trois médias semblent cocher les cases. Télé 1000 Vaches est l'une des plus vieilles télévisions associatives de France. C'est né en 1986 à l'initiative d'habitants qui voulaient pallier au manque d'intérêt des médias nationaux du territoire et montrer par l'image aux gens du territoire qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a moyen de bien vivre sur le plateau. Rembobine Franck Dessomme. Les anciens se souviennent encore du journal diffusé dans les bars des villages avant l'arrivée de YouTube. Le trimestriel IPNS, dont le nom est un clin d'œil qui signifiait « imprimé par nos soins », a été créé en 2006. Le canard raconte les initiatives du coin et les coups de gueule locaux. Dans la même veine, le bimestriel La Trousse Corrézienne est né en 2015, à quelques kilomètres du plateau. « Habituellement, notre dossier passe comme une lettre à la poste », raconte Michel Leluc. Lulek, directeur de la publication d'IPNS. Mais déjà en 2022, les fonctionnaires du ministère de la Culture nous ont expliqué que ça bloquait la préfecture de région et qu'ils allaient trouver un autre moyen. C'est passé de justesse. Cette année, on a appris que nos dossiers n'avaient même pas été présentés à la commission en juin. Une information que StreetPass a pu confirmer par une source proche du dossier. On en a déduit que le ministère de la Culture a reçu des consignes qui viennent d'ailleurs, a priori du ministère de l'Intérieur qui ne veut pas que des structures comme la nôtre soient financées par des fonds publics, explique le journaliste creusois Michel Lulek, qui regrette le flou qui entoure cette décision. Auprès du Monde, des fonctionnaires de la Direction Régionale à l'Action Culturelle, la DRAC, ont confirmé sous couvert d'anonymat que les ordres de mettre fin à d'autres subventions pour de nombreuses associations du coin sont bienvenus des préfectures. Une tutelle implicite du ministère de l'Intérieur sur celui de la culture qui se ferait sentir depuis la loi contre le séparatisme en 2021. Elle oblige notamment les associations subventionnées à signer un contrat d'engagement républicain, mais les ingérences passeraient principalement par l'oral et l'omerta règne. Selon les informations de StreetPress, les fonctionnaires des différents services déconcertés qui auraient pu se confier au quotidien national en août auraient même été convoqués par leur hiérarchie. Des villages d'ultra-gauche. D'où viendrait cette hostilité de la place Beauvau pour les médias du plateau de Mille Vaches? C'est une zone où il y a très peu d'habitants au kilomètre carré, mais une vie associative et locale très riche, explique le maire sexagénaire de la ville Dieu Thierry, Le Tellier. Ça a toujours été un territoire très à gauche, nourri par des vagues de néo-ruraux arrivés au XXe siècle, qui menaient des expérimentations politiques et sociales. C'est aussi là que se situe Tarnac, en Corrèze, où un prétendu complot terroriste d'ultra-gauche avait eu lieu dans les années 2000. De quoi reprocher aux associations d'être proches de mouvements comme les soulèvements de la terre, que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenté de dissoudre en juin 2023. Certaines communes comme Gensioux, Pigerol, La Ville-Dieu, Faux-la-Montagne et Saint-Martin-Château seraient même qualifiées d'ultra-gauche au sein des ministères. Éric Correra, président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, siège de la préfecture, a écrit en juin 2023 un courrier à la préfète de la Creuse pour dénoncer la lecture qui est faite par les services de l'État de l'engagement républicain demandé aux associations. La responsable a répondu au courrier de l'élu en niant le lien de la fin de ces subventions avec le contrat d'engagement républicain. Dans le courrier que StreetPress a pu consulter, elle renvoie la faute sur la multiplication des associations sur le territoire, parfois plus d'une trentaine dans des communes de 500 habitants, et le budget non illimité de l'État. Selon Éric Correra, ces coupes budgétaires sont pourtant dramatiques pour la région. La Creuse, sans le monde associatif, on est mort. L'économie sociale et solidaire, c'est 18% de l'emploi. L'élu note aussi l'absurdité que serait d'associer les trois médias du plateau à des militants dangereux. Avec 118 000 habitants, c'est assez facile de savoir s'il y a des fous extrémistes ou des gens respectueux derrière le monde associatif. La télé locale ne se débine pas. Avec le FSMISP et les autres subventions retirées ces deux dernières années, Télé Mille Vaches comptabilise 40 euros de ressources manquantes. Malgré l'argent public en moins, les journalistes vont continuer à se balader dans les vallées avec leurs caméras. Franck Galbrun, le coordinateur du média, détaille. Ça nous met structurellement en déficit, mais heureusement, on a de la trésorerie. On peut tenir 2-3 ans, après ça deviendra dangereux. Les passionnés ouvre même un nouveau poste de journaliste. C'est un petit défi. Quant à IPNS, qui a pu passer en couleur et augmenter la pagination grâce au fond, les ventes du journal devraient pour l'instant suffire à le maintenir à flot. Voilà, un article de StreetPress, le site internet. Et on va se laisser en musique. On va se dire au revoir la semaine prochaine, ouais. Et prenez soin de vous. Salut.
Salut.